J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Tu as perdu! Tu as perdu, tu comprends? Tu ne joues plus.
Salut tout le monde et bienvenue sur Aléa. Peut-être connaissez-vous la fable de la grenouille qui se voulait faire aussi grosse que le bœuf. Même si La Fontaine visait à l'époque l'orgueil de la bourgeoisie et de la noblesse, vous pouvez aujourd'hui en tirer un conseil pour votre prochaine partie de Colons de Catane, ou de n'importe quel autre jeu de stratégie auquel vous aimez jouer. Si vous souhaitez gagner, n'essayez pas de passer pour un bœuf. Les jeux de société, en plus des classiques facultés d'analyse, de planification et de calcul, sollicitent également de nombreuses compétences sociales et psychologiques. Observer ses adversaires, anticiper leurs actions, garder la tête froide, cacher ses propres intentions, bluffer, convaincre, mentir, argumenter, négocier, etc. Outre les choix tactiques, donc, qui s'inscrivent avant tout dans les mécanismes internes du jeu, il existe ainsi de nombreuses manières d'également tirer parti des interactions qu'on peut avoir avec les joueurs et les joueuses réunis autour de la table. Puisqu'on joue rarement seul, il apparaît en effet essentiel d'intégrer ces interactions à notre raisonnement, d'adopter une stratégie relationnelle appropriée, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à affronter tout le monde en même temps. À ce titre, une attitude assez couramment exploitée, parce qu'elle peut naturellement paraître efficace, dessert en fait plus qu'elle ne sert. L'intimidation. Dans le cas des disciplines sportives, on estime souvent qu'avoir l'ascendant psychologique constitue un levier puissant pour obtenir un avantage tactique. Suggérer à son adversaire qu'on est meilleur, qu'on va gagner et qu'il ne peut pas y faire grand-chose. En d'autres termes, impressionner pour inhiber, faire peur pour maîtriser. Mais si cette attitude pourrait également faire ses preuves dans certains jeux de société ou face à certains types de joueurs, il est souvent plus facile et même plus efficace de déconcerter ses adversaires en adoptant la stratégie inverse. Au lieu de se montrer plus fort que ce que l'on est, mieux vaut souvent paraître plus faible. Un très bon ami, qui à une époque jouait régulièrement à Magic the Gathering, un jeu de cartes à collectionner inimitable, s'amusait en tournoi à demander à ses adversaires quelques précisions sur des points de règles pourtant basiques, avec la plus grande naïveté. On commence bien la partie avec cette carte, c'est ça ? Je me souviens plus, on peut jouer les éphémères à quel moment déjà ? Ou de manière plus subtile, utiliser des termes de jeu approximatifs, parler avec enthousiasme de cartes surcotées ou réfléchir longuement à des choix évidents. L'objectif était simplement de rassurer son adversaire, de se faire passer pour un joueur à la petite semaine et d'ainsi endormir sa vigilance afin qu'il commette éventuellement, par un excès de confiance, une erreur de jeu. Mais dans les jeux de stratégie, plus généralement, se rapetisser, s'amoindrir, se faire oublier est un objectif quasiment systématique. Et cela est dû en grande partie à un principe stratégique extrêmement répandu, le leader bashing. En français, on dirait « taper sur le premier » ou « se liguer contre la personne en tête du classement ». Une pratique assez logique et redoutablement efficace dans les jeux de stratégie, où, tout au long de la partie, en plus de faire progresser ses propres chances de victoire, on tente également de ralentir nos adversaires en commençant, bien évidemment, par celles et ceux qui ont le plus d'avance. Une pratique qui devient même nécessaire dans les jeux déséquilibrés, où les chances de victoire ne sont pas égales en début de partie. Suivant la situation de départ des uns et des autres, la configuration initiale du plateau, les ressources présentes sur les différents territoires, les capacités propres aux personnages et aux factions incarnées par les joueurs. Dans ces situations, on fait alors confiance aux joueurs et aux joueuses pour rééquilibrer ces inégalités par des alliances qui permettent aux plus faibles de rattraper le retard qu'ils ont sur les plus forts. Et c'est même le ressort principal de jeux de négociation comme diplomatie, où les complicités se nouent et se dénouent au rythme des dynamiques de pouvoir. Par ailleurs, le statut de leader, et donc de cible à abattre, peut également être décidé pour des raisons extérieures à la partie en cours. On pourra par exemple chercher, de manière préventive, à ralentir un adversaire notoirement dangereux. C'est une pratique qui peut faire débat, dans la mesure où les raisonnements méta, extérieurs au jeu, sont parfois mal vus par les joueurs qui considèrent qu'une nouvelle partie est une page vierge, et qu'on ne devrait pas prendre compte de l'historique personnel des uns et des autres. Mais en pratique, on joue nécessairement en fonction des faiblesses et des points forts connus de nos adversaires. Quoi qu'il en soit, il devient rapidement clair que la position de leader n'est pas la plus enviable. À ceci près qu'il faut quand même gagner la partie. Il faut donc être premier, mais sans en avoir l'air. Les joueurs expérimentés développent alors tout un tas de stratégies pour dissimuler leur réussite ou pour diriger l'attention sur celle des autres. Faire remarquer à haute voix nos propres faiblesses, mettre en évidence les points forts de nos adversaires, argumenter pour montrer qu'ils vont sûrement gagner la partie et que nous, au contraire, on est plutôt en train de la perdre, et faire preuve d'inventivité si rien de tangible ne va effectivement dans ce sens. Jouer à faire croire qu'on est inoffensif. Attention cependant, lorsque ce petit jeu devient une habitude, il est facile de débusquer les fabulateurs. Toute expression de la force d'un autre ou de sa propre faiblesse est rapidement interprétée comme une tentative pour détourner l'attention. Il faut alors savoir se limiter à des faits relativement objectifs, comme compter les points de victoire, mais uniquement lorsque c'est quelqu'un d'autre qui en a plus. Ou à de petites insinuations tout en subtilité, complimenter un coup bien joué, parler de la dernière partie lors de laquelle on avait perdu, en rappelant au passage que c'était seulement la deuxième fois qu'on jouait à ce jeu, bien évidemment ne pas trop parler de celle qu'on a gagnée, et même, vous diront certains, éviter les pions de couleur vive, dont la présence sur le plateau de jeu est bien plus ostensible. Entre les rouges et les noirs, mieux vaut jouer la couleur qui se dissimule sur le plateau de jeu. J'aime à constater que cette démarche, initialement justifiée par de purs enjeux stratégiques, incite à des interactions cordiales, voire même bienveillantes. Face à l'image caricaturale du mauvais gagnant, celui qui se plaît à exposer aux yeux de tous ses qualités de stratège et sa réussite, le malin ou la maline préférera rester humble et complimenter ses partenaires de jeu. Si bien que, lors de certaines parties, en voulant souligner les points forts de nos adversaires ou en exposant nos propres faiblesses, on se retrouve à donner, par mégarde, de véritables conseils. Le bœuf, à force de se vouloir faire aussi petit que possible, parvient parfois à faire gagner la grenouille.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Tu as perdu ! Tu as perdu, tu comprends ? Tu ne joues plus !